Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va? C'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est lundi, c'est Ravioli et c'est l'heure du podcast des maternelles, podcast France Télévisions, c'est parti! Le podcast des maternelles pour parler aussi aujourd'hui alors d'un sujet qui bien sûr concerne de plus en plus de couples, de plus en plus d'enfants, bien sûr la séparation des parents. Aujourd'hui on va parler d'un thème qu'on a intitulé ainsi, marié, séparé. Et remarié. Oui, on va entendre un témoignage exceptionnel, celui de Laura, un très beau témoignage. Et puis nous serons après avec une psy qu'on aime bien dans la maison des maternelles. C'est Sophie Cadalène, c'est parti.
Ah, vous savez ce que dit le poète Virgile, il dit que l'amour triomphe de tout, mais enfin le chemin est loin d'être linéaire. Certains couples évidemment connaissent des ruptures, avant parfois, et c'est rare quand même, le retour de flamme. C'est votre histoire Laura, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à la maison des maternelles. Alors que vous étiez en couple avec Jérémy depuis 8 ans, vous étiez les parents d'Ethan qui avait 2 ans et demi à l'époque, vous vous séparez. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. En plus, vous étiez rencontrés très jeunes. Aujourd'hui, après presque 6 ans de séparation, vous vivez de nouveau ensemble tous les trois. Bon, enfin, ça, c'est quand même une histoire d'amour. C'est un conte de fées. Merci d'être venu nous raconter cette histoire extraordinaire. C'est une longue histoire, Jérémy et vous, hein, Laura, parce que vous vous connaissez depuis 14 ans. Vous êtes rencontrés au lycée. Je le disais, vous étiez très jeune. Vous aviez 17 ans, lui presque 20. Et puis, au bout de 4-5 ans de relation, vous avez décidé tout naturellement de fonder une famille. Où est-ce que vous en êtes à ce moment-là dans vos vies? Vous travaillez
on travaille tous les deux. On est plutôt stable. Du coup, bah, c'était un peu la suite logique de faire un enfant. Et...
Vous êtes tombée enceinte naturellement, rapidement?
Oui, naturellement, rapidement. C'était génial. J'ai adoré être enceinte. franchement, j'évite de trop le raconter parce que j'ai tellement de copines qui vivent des... grossesse difficile, mais moi, c'est génial.
Bah, moi aussi, c'était deux parenthèses enchantées. Non, mais il faut le dire, hein, pour toutes les femmes qui ont un projet de bébé, la grossesse, ça peut être idyllique. Donc, vous, on l'a dit, grossesse, sous le signe de la plénitude, vous êtes super bien. Comment se passe l'accouchement?
L'accouchement, j'avais pour projet d'attendre la dernière minute pour avoir la péridurale. Donc, je suis arrivée jusqu'à 6 cm sans avoir très, très mal. Et puis, je pense que je me suis porté l'œil à moi-même parce que et bah, quand ils m'ont rompu la poche des os, ils m'ont dit ouais, « là, ça va être un petit peu plus compliqué, les contractions ». Donc, moi, je me suis dit « bon, je vais rester dans l'ignorance, c'est pas grave, allez-y, mettez-la ». Eh ben, elle n'a pas fonctionné, donc voilà.
Et voilà, vous voulez accoucher sans péri, vous avez accouché sans péri.
Ah ouais, j'ai senti jusqu'au dernier petit orteil de mon fils.
Oui, mais justement, le dernier petit orteil, c'est la délivrance, voilà. C'est que ça va. Et tout de suite, ça s'arrête. Les premiers mois, tous les trois, comment c'était, vous qui étiez un couple si jeune?
Bah, ça s'est bien passé. Bon, j'ai eu une petite période, et je me souviens d'un épisode où j'ai dû dormir un bon 22 heures. Et bon, Jérémy a pris le relais. Heureusement, je tirais mon lait. Mais sinon, ouais, c'était une bonne harmonie de famille. C'était...
Oui, vous n'êtes pas disputé plus que ça. On ne peut pas dire que la naissance de votre fils ait fragilisé plus que ça votre couple à l'époque. Non. Bon, et pourtant, 2015, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Votre fils, il a 2 ans et demi.
Ouais.
Et là, vous vous séparez. Mais qui a pris la décision? Et comment ça s'est passé?
C'est Jérémy qui a pris la décision. Je me souviens, je rentrais d'une soirée avec des copines. Et... il me dit qu'il veut parler et puis il me dit qu'est-ce que tu penses de moi, un truc comme qu'est-ce que tu penses de moi. Puis là je lui fais une déclaration. Enfin, moi à cette époque-là, Jérémy c'est mon amour,
c'est ma vie.
Je respire, je mange, je dors Jérémy quoi. Et puis lui il me dit je veux qu'on arrête.
Vous n'y avez pas de signe avant-coureur, il vous sort ça comme ça?
Pas vraiment, non. Bon, après, on avait des petits soucis, un peu comme tout le monde, mais il n'y avait pas vraiment de signe avant-coureur. C'était un peu la douche froide.
Mais plus que ça, c'est la déflagration même. Alors, en plus, avec un petit garçon de 2 ans et demi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez gardé l'appartement? Vous êtes allé vivre ailleurs?
Alors moi, j'avais repris mes études à cette époque-là. Du coup, j'étais en alternance et c'était un peu compliqué de trouver un appartement en étant en alternance. Donc je suis partie vivre chez ma grand-mère. pendant un an, pendant un peu plus d'un an, avec mon fils, dans l'appartement, enfin dans la maison familiale. Et du coup, bah, on a commencé au début, comme j'étais à l'école et en entreprise, et ben, on faisait 15 jours, 15 jours. Et puis, dès que j'ai décroché mon CDI, on a fait le classico-classique, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires.
Comment vous avez expliqué la situation à Ethan ?
Ethan, on ne lui a pas vraiment expliqué. C'est un peu arrivé comme ça. Et puis, Ethan, il est assez docile. Donc, ce n'est pas un enfant qui se perturbe pour des choses comme ça. Donc, il a vécu sa petite vie, d'enfant avec parents séparés. Elle était vraiment harmonieuse. Mmh. Parce que Jérémy, c'est loin d'être un papa démissionnaire. Et du coup, il était présent.
Donc, vous n'avez pas senti plus que ça de changement chez Ethan ? Pas de colère, pas de tristesse ?
Non.
Ça s'est passé vraiment ?
Oh, j'ai un bébé parfait.
Ouais, j'ai l'impression. Hein. Déjà, vous êtes une fille parfaite.
Non, on ne peut pas dire ça.
Vous allez énerver nos téléspectatrices. Hein. Comment est-ce que ça a évolué, alors, cette relation avec Jérémy, sachant que, bon, quand même, il vous fait un sale coup, quoi. Il n'y a pas de signe avant-coureur.
Ouais.
Il vous quitte comme ça du jour au lendemain. Comment étaient les rapports ?
Au début, on communiquait juste par rapport à Ethan. Et puis moi, au départ, je lui en voulais. Je ne pouvais pas me le voir. Et puis après, ça s'est un peu apaisé au fil des années, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais vous avez eu des relations avec d'autres
hommes ? Oui, lui comme aussi. Lui, pas avec des hommes, hein, mais il a eu des relations, moi aussi. Mais toujours, il n'y avait pas vraiment de signe qui disait qu'on allait refaire nos vies.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, vous en parlez naturellement, c'était intégré, quoi. Il n'y avait,
oui.
avait pas de jalousie, il n'y avait
non.
pas de ça.
Moi, je ne suis pas quelqu'un de jalouse. Donc, moi, je me disais que s'il rencontrait quelqu'un, il fallait que ce soit quelqu'un de bien, parce que si elle rentrait éventuellement dans le quotidien de mon fils, il ne fallait pas que ça le perturbe.
Oui, c'est ça. Ouais. Il fallait que ce soit une gentille belle-mère, quoi.
Voilà, exactement.
Alors, début 2021, vous êtes en plein burn-out, vous n'en pouvez plus.
Ouais.
Et là, vous en parlez à Jérémy,
oui.
quoi, voilà. Mais vous êtes là, vous êtes à 10 000 lieues d'imaginer comment il va réagir.
Oui, bah, je lui en parle parce que je me dis que ça peut impacter mon fils, le fait que je sois en burn-out.
C'était quoi, trop de boulot
trop de boulot. Et puis je pense que le Covid a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis j'étais très, très, très stressée. Et on discute un peu de nos vies. Et puis il me raconte des anecdotes avec des filles. Et
Mais par message. Hein.
Oui, par message. Oui. On se parle par message. Et puis il me raconte des anecdotes et puis je lui dis de toute façon où est-ce que tu vas aller chercher toi tes copines, de toute façon la femme de ta vie c'est moi. Mais franchement je jure sur les deux yeux de mon fils que c'était sans arrière-pensée.
C'était du second degré.
C'était du second degré. Et lui il a pris ça au mot et puis il a commencé à écrire un message. Vous savez on voit il y a écrit. Et puis...
Oui.
Écrit. Pendant... Je me dis, il est en train d'écrire sa biographie, le gars.
Oui, là, vous voyez, Jérémy écrit.
Bon, voilà, ça Jérémy écrit. Et ça... Ouais, voilà, à peu près. et puis, ma fille, une déclaration. Oui, t'as raison, bah, c'est toi la femme de ma vie. J'ai toujours cherché un peu de toi dans les personnes que j'ai rencontrées. Et moi, je lis le truc, je pleure.
Vous pleurez d'émotion.
Ah non, mais je crois que j'ai lu le message 50 fois, à peu près. Et je pleure. Et je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe ?
On rappelle quand même qu'on est 6 ans après la séparation.
Ouais, on est 6 ans après. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas si c'est par fierté ou si c'est parce que je vivais ma best life avec mon fils en maman solo, c'était cool. Mais ouais, ça a chamboulé pas mal.
Mais, donc, vous l'avez pris au sérieux quand même ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez répondu, vous ?
Je ne pense pas que j'ai répondu tout de suite. Et surtout... S'il y avait cette envie de reprendre quelque chose, moi, mon intérêt, c'est mon fils. Et je me dis, il avait 2 ans et demi quand on s'est séparés, il s'en souvient pas, il est en toute harmonie avec ses parents séparés. Si c'est pour qu'on se remette ensemble et qu'il me refasse le même coup, là, à 8 ans, Ethan, il va s'en souvenir, c'est peut-être un peu compliqué. Mmh. Donc, puis j'ai ravalé mon truc. Moi, j'ai été suivie par une psychologue pour mon burn-out et puis je lui en ai parlé. On a travaillé un peu sur la rancœur que j'avais... par rapport à cette histoire, par rapport à Jérémy.
Oui, donc j'imagine que ça avait porté ses fruits aussi. Vous étiez, quand vous avez reçu ce message, vous étiez déjà un peu réparée, entre guillemets, j'imagine.
Oui, moi, 6 ans après...
Oui,
ouais,
quand même.
J'étais bien réparée.
Et puis alors, Jérémy, bah, il va décider de vous reconquérir, quoi, carrément. Il va aller jusqu'à s'excuser auprès de votre père. Voilà,
ouais.
Il va aller voir le papa en disant « Je suis désolée, voilà, je suis désolée d'être partie il y a 6 ans ». Vous avez accepté de retenter l'aventure ensemble. Alors, comment ça se passe, la vie, après autant d'années de séparation? J'imagine qu'il faut se réadapter quand même. Vous avez pris des habitudes avec votre petit et tout?
Oui, bah ouais. Ethan et moi, on avait notre vie. Chez moi, c'était clairement l'appartement d'une mère célibataire. Mais il manquait qu'un homme, en fait. Et il ne fallait pas aller le chercher bien loin, au final. Et il n'y avait pas eu vraiment d'habitude à reprendre ou quoi, parce qu'en fait, on a mis pause et nos personnes n'ont pas foncièrement changé. On a évolué chacun de notre côté. Mais en fait, c'est reparti comme en l'an 40. C'était
oui,
une évidence.
Vous n'étiez jamais quitté, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Et Ethan, comment il l'a pris?
Au début, quand on lui a dit, il est parti s'enfermer dans sa chambre. Et en fait, il pensait que ça voulait dire qu'il ne verrait plus ses grands-parents, il ne verrait plus le chien. Et quand il a compris que ça ne voulait pas dire qu'il ne verrait plus les parents de Jérémy et que c'est juste que bah, tous les week-ends, il serait avec papa et maman, il n'y avait plus ce truc de un week-end sur deux, c'est revenu.
Alors, en préparant cette émission, vous nous avez parlé aussi d'un beau projet de couple et de famille. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 octobre 2021?
Alors, le 28 octobre 2021, j'étais dans un jour un peu sans. J'étais très fatiguée, il faut savoir que j'ai une sclérose en plaques et qu'il y a des jours où je ne suis pas très bien. Mmh. Puis en plus, c'était le premier jour des règles. Et il me dit, prépare-toi, on sort. Je n'ai pas envie de sortir. J'ai été partisane du moindre effort. Je n'ai rien fait. J'ai enfilé une robe. Je ne me suis même pas maquillée. On est parti manger au restaurant. Un restaurant très mignon, très, très, très bon. Et on était dans le quartier de Saint-Michel. Et puis, il faisait assez beau fin octobre. On a décidé de se balader dans Paris et on arrive vers le pont des Arts qui est un de mes ponts préférés. Puis il me dit « C'est pas ton pont là-bas, là ?» Je dis « Bah ouais. » Je dis « Bon, vas-y, on y va. » Puis on y va.
Et ton pont, j'adore.
C'est
ton
pont, mon pont, ouais. Sur lequel on a eu un cadenas à l'époque, il y a très longtemps.
Il y a plein de cadenas.
Voilà. Et du coup, il commence à me faire une déclaration que je garde pour moi parce que c'était mon moment. Déclaration, puis moi je commence à avoir les larmes qui montent, je me dis mais pourquoi il me parle? Moi dès qu'on me fait une déclaration, je suis toute émotive, et puis il met un genou à terre et il me demande si je veux l'épouser.
C'est la spécialiste de l'amour en Europe de l'Ouest. C'est simple, voilà, Sophie Cadalen, bonjour.
Au monde.
Oui, je ne sais pas pourquoi je vous réduis à cette Europe de l'Ouest alors que vous parlez toutes les langues. Vous êtes psychanalyste et auteur du livre « Aimer sans mode d'emploi » aux éditions Erol. Alors, l'amour, évidemment, c'est formidable, etc. Puis à un moment, parfois, ça s'éteint, ça suscite pas mal de questions. Comment est-ce qu'on annonce à un enfant ou d'ailleurs à un bébé qu'on se sépare? Qu'est-ce qu'on dit? À quel moment on le fait?
Bah, on le lui dit déjà, et ça on sait depuis Dolto que même si l'enfant ne parle pas, l'enfant comprend, l'enfant a besoin qu'on nomme les choses. Il n'y a pas plus angoissant, il n'y a pas plus perturbant pour lui qu'une situation qui a changé, que les ondes autour de lui qui ne sont plus les mêmes, que du chagrin qu'il ressent, celui du papa et de la maman, d'ailleurs en général les deux sont chagrinés de la séparation, il faut mettre des mots, mais des mots simples. Et parler à l'enfant, ça c'est ce qu'on n'a pas tout à fait toujours compris non plus par rapport à Dolto, parler à l'enfant. C'est pas tout dire à l'enfant, c'est pas raconter notre intimité à l'enfant.
Pas, ouais.
Voilà, ce sont des informations, je dirais déjà factuelles. Voilà, on va se séparer, ça change rien pour toi. On va être le plus présent possible, tout ira bien. Voilà, les choses qui rassurent. Mais aussi parler de notre état à nous. Si on est très chagriné, si on est, si on est extrêmement angoissé, et c'est pas rare dans une séparation que l'un ou l'autre, en tout cas, soit extrêmement perturbé par ce qui se passe, c'est aussi le lui dire. T'inquiète pas, maman ou papa va pas bien, mais ça n'a rien à voir avec toi, je t'aime. Enfin, ces choses qui paraissent simplissimes, mais qu'il est toujours bon de dire.
Bien sûr. On a une question en vidéo d'Anne-Sophie qui, elle aussi, s'est séparée de son conjoint pendant quelques années. Regardez.
Bonjour, bonjour. Anne-Sophie et Jérémy, parents d'Esteban, 12 ans, Benjamin, 3 ans et Maxence, 1 an. À la naissance d'Esteban, on s'est séparés pendant 3-4 ans à peu près. Comment fait-on pour ne pas ressentir les vieilles rancœurs lors de conflits avec notre époux, parce qu'on connaît le meilleur, mais on connaît aussi le pire de ce dont il est capable, étant donné qu'on a connu une séparation.
Mmh. Oui, comment fait-on? Déjà, admettre qu'on va sans doute pas en faire l'épargne, ces espèces de retour acide, comme on peut l'avoir d'ailleurs au niveau digestif, de ces choses qui sont pas bien passées, mais surtout, être très vigilant au fait que ça nous regarde nous en tant que couple. Ça ne regarde pas les enfants. Ça, c'est notre cuisine à nous. Ça, c'est notre intimité à nous, parents, enfin à nous, couples, justement, qui sommes couples plus que parents à ce moment-là. Donc, il va falloir s'en occuper, à part de la famille. Peut-être s'en occuper soit tout seul, déjà, plutôt que d'être dans le reproche à l'autre. C'est vraiment s'interroger sur qu'est-ce que ça raconte de nous, cette séparation, éventuellement cette tromperie, c'est souvent ça qui arrive, ou ce doute à un moment donné, je ne suis plus sûre de t'aimer, voire je ne t'aime plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour soi? C'est-à-dire, le reproche, la plupart du temps, là où il n'est absolument pas constructif, c'est quand c'est ta faute si, c'est toi qui m'as fait ça, et c'est toi qui m'as quitté, et c'est toi qui n'as pas dit ou qui n'as pas fait,
on
ou qui n'as pas été.
On du principe que dans une séparation où c'est 50-50, je veux dire, même si il y en a un qui prend la décision, peut-être qu'elle a été quand même nourrie à 50% à cause de l'autre, non?
Je ne m'aventurerai pas sur les pourcentages, mais c'est assurément une histoire ensemble. Et la meilleure façon, effectivement, de passer ces caps-là, de dépasser le traumatisme, c'est souvent un traumatisme, c'est de se poser la question de soi en tant qu'acteur. Où en étions-nous dans cette histoire? Dans cette seule position de « j'ai subi le doute ou la trahison de l'autre », on ne va pas aller bien loin. Et effectivement, ça va revenir. Parce que l'autre, c'est pire de nous refaire, toujours. Donc c'est vraiment prendre ça à sa charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en était notre couple? Comment moi, je me situais par rapport à l'autre? Qu'est-ce que j'espérais de l'autre qu'il ne m'a pas donné? Ou qu'est-ce que je n'ai pas donné à l'autre qu'il peut-être il espérait? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas exprimé? Qu'il sera temps, justement, dans cette reconstruction, d'exprimer enfin.
Dans un monde idéal, parce que moi j'ai l'impression que toutes les séparations autour de moi, quand on va discuter avec un des deux, il en met plein les dents de l'autre, mais il se remet rarement en question dans les personnes.
Oui, c'est le problème dans toutes les situations d'ailleurs de conflit, de souffrance. Je dirais même à un niveau plus général, c'est la faute au Covid, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au temps.
C'est la faute à Benjamin Muller, souvent.
C'est souvent Benjamin Muller. Alors effectivement, il y a des causes extérieures tout à fait identifiables. Mais si on ne se pose pas comme acteur à un moment donné, voilà, en se disant « bon, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et même si on estime que l'autre n'a pas été sympa, ou a mal agi, ou n'a pas parlé, ou n'a pas donné de signe annonciateur, comme racontait votre témoin, si on ne prend pas ça à notre compte, on aura du mal à avancer. Oui.
Romuald vous dit « si les deux parents se remettent ensemble après plusieurs années, quand l'annoncer aux enfants ?»
Ça va dépendre. Ça va dépendre déjà des enfants qu'on a, de l'âge qu'ils ont. Je crois qu'alors déjà l'annoncer quand on est à peu près certain, enfin quand on a bien cheminé, c'est pas au moment des doutes, c'est pas « Ah, oh, peut-être que ton père, ta mère... »
J'ai l'impression qu'il revient, dis-moi.
Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je fais? Non, ça, alors, voilà, les enfants, on vous le dites souvent ici, on se les dit ensemble, c'est pas nos copains, c'est pas nos confidents, donc les préserver, compter aussi sur leur intelligence, sur leur radar. Ils savent quand les choses bougent, ils savent quand notre rapport a changé, ils savent quand ça se réchauffe, qu'il y a du rapprochement. Donc ça aussi, compter là-dessus, ne pas occulter cette donnée-là. Et puis ça dépend des relations qu'on a, ça dépend des enfants qu'on a, ça dépend de l'âge aussi, encore une fois.
Ça dépend si la parole est libre aussi.
Exactement, et je crois que plus ils sont âgés, les enfants, plus justement, moins on aura de comptes à leur rendre. Ils sont grands, ils peuvent comprendre.
Est-ce que pardonner les erreurs du passé signifie les oublier?
Alors déjà, non, on n'oublie pas. C'est même très suspect, l'oubli. C'est comme quelque chose qu'on met sous le tapis. Et puis à un moment donné, le tapis, on le secoue un peu et ça fait des gros moutons en dessous. Enfin, sinon, on n'oubliera pas. Donc, il va falloir faire avec. Et puis le pardon, j'aime pas tellement cette notion de pardon, qui a un côté un peu condescendant, souvent, le pardon, qui pose les choses de manière hiérarchique.
On est placé au-dessus quand on pardonne.
Exactement.
C'est ça.
Il y a celui qui, dans sa grande mansuétude, dit bon, voilà, tu as fauté, mais. Je te pardonne. Et on peut rester sur ce schéma qui peut nous coller au basque toute notre vie de couple. Ensuite, il y a le grand pardonneur et il y a le ou la pardonné. Et je crois qu'au contraire, il faut casser ça. On en parlait tout à l'heure. Au contraire, se remettre en cause tous les deux, en parler ensemble, être acteur de ce qui s'est passé, de ce qui s'est mal passé entre nous, mais pas cette position trop figée, encore une fois, pas égale, pas ouais, trop condescendante, encore une fois.
C'est passer à autre chose. On pardonne pas.
On pardonne pas,
on
non.
On n'oublie pas, on passe à autre chose.
Ça fait partie
on
faut l'intégrer, en fait.
On en parle.
C'est l'intégrer à notre histoire.
Exactement, on en parle, on transforme. Parler les choses, c'est d'une certaine manière les broyer, les mâcher, peut-être arriver à les digérer. C'est en tout cas les éjecter. Ouais. Il faut en faire quelque chose de ce qui s'est passé. Et je dirais même en faire quelque chose qui peut être extrêmement constructif pour la suite.
Sachez qu'Hélène Ségara disait « On n'oublie jamais rien, on vit avec ».
Oui, c'est vrai. On se passe trop des grands philosophes. Hein. Finalement, la philosophie, c'est voilà. Ça qui nous permet de survivre.
Voilà.
Merci, Yasmine.
Je vous en prie. Lise vous dit « Quand on s'est séparé, notre fils avait 4 mois et il a davantage vécu avec moi, sa mère. Aujourd'hui, il a 3 ans et son père revient vivre avec nous. Comment rééquilibrer le lien père-fils. C'est vrai que ça, c'est important.
Oui, ben, il va falloir laisser sa place, toute sa place au père pour justement, on parle du lien père-fils, et ben, ça va concerner d'abord et surtout le père. On dit en psychanalyse que c'est la mère qui fait le père. Alors, ça, c'est très genré. On peut mettre ça à toutes les sauces. Hein. Ce n'est pas une histoire de sexe du tout, c'est une histoire
c'est
de l'un
et de l'autre.
Un
parent qui fait l'autre coparent.
Exactement. Et si la mère ou le père a élevé l'enfant de manière majoritaire, oui, effectivement, le lien est différent à l'autre. Il va falloir laisser de la place. Voilà, peut-être s'écarter un peu, laisser des moments, les laisser faire. Je crois que c'est la meilleure façon pour que ça se fasse.
Séverine vous demande, doit-on donner les vraies raisons de la rupture, notamment pour un problème d'alcoolisme, quand la vraie raison est difficile?
Alors, l'alcoolisme, la plupart du temps, l'enfant le sait. C'est rarement laissé à l'écart du couple. Mais je crois que, de toute façon, de manière générale, il ne faut pas rentrer dans les détails de ce qui est à l'origine de la séparation. Une tromperie, c'est délicat aussi. Voilà, papa ou maman a été voir ailleurs. Et souvent, on le dit, très souvent, bien plus souvent, en espérant ternir l'image du parent, qui, encore une fois, a fauté avec tout le côté moral qu'il y a derrière. Donc non, je dirais de manière générale, épargner l'enfant sur les raisons fondamentales, pas le prendre pour un idiot non plus. Bien sûr qu'il sait. Lui dire c'est compliqué, il y a des choses difficiles à vivre, j'accepte mal l'attitude, voilà, j'ai du mal à vivre avec, mais ça nous regarde.
Morgane vous dit, avec le père de mes enfants, nous nous sommes remis ensemble après 5 ans de séparation. Mon fils de 8 ans ne le prend pas bien, alors que mon fils de 10 ans, lui, est ravi. Comment gérer ses réactions? La différence, du coup, entre ces deux enfants qui ne prennent pas du tout de la même manière.
Oui, bah, de toute façon, c'est le lot de l'éducation générale. On n'a pas les mêmes parents. Dans une fratrie, on n'a pas la même histoire. On n'a pas le même père, la même mère, ou les deux mêmes mères.
Vous voulez dire qu'on se comporte différemment?
Non, non, pas du tout. C'est une histoire de sujet à sujet. Déjà, oui, on va de toute façon se comporter différemment parce que les enfants qu'on a devant nous sont différents. C'est vraiment un lien toujours très particulier qui se tisse. Et l'enfant lui-même, dans sa particularité, dans sa singularité, ne reçoit pas le parent de la même manière. Ce n'est pas les mêmes moments, ce n'est pas les mêmes circonstances, jamais. Ce ne sera jamais les mêmes éducations copier-coller. Ce ne sera jamais le même parent. Donc là aussi, on a des enfants différents qui reçoivent l'histoire de manière différente, qui l'ont vécu à des âges différents. Eh ben, il va falloir tenir compte de ces différences et s'intéresser à chaque enfant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, celui pour qui tout se passe bien, à la limite, réclamera pas d'écoute, mais en tout cas de soutien, d'accompagnement. Mais l'autre, vraiment comprendre. Ça peut être très perturbant pour un enfant, les parents qui se remettent ensemble. Il peut très bien aimer l'enfant, avoir son parent d'un côté, l'autre de l'autre, qui en général le cajole, veulent faire montre de leur amour. Enfin, les enfants jouent quelquefois très bien de cette situation et en tirent leur meilleure partie.
Ils sont bien contents. Hein.
Bah, quelquefois, ils se demandent, d'ailleurs le témoin en parlait tout à l'heure, qui avait peur de ne plus voir ses grands-parents, qui avait peur de plus avoir les privilèges qu'il avait auparavant. Donc il va falloir le rassurer, de toute façon, l'accompagner et peut-être lui dire à un moment donné, c'est notre vie, ça nous regarde, il va falloir que tu fasses avec, même si ça ne plaît pas.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enfants sont quand même très égocentrés jusqu'à un âge avancé. Donc eux, à partir du moment où ils ont trouvé leur petit équilibre, leur petit intérêt, l'intérêt des parents, même si c'est les personnes qu'ils aiment le plus au monde, ils s'en tapent un peu le coquillard, on est d'accord?
Ah, mais complètement. Et à partir du moment où ils savent jouer de l'autorité, de la permissivité de l'un ou de l'autre, ils sont très forts là-dessus. Maman veut pas, moi j'ai demandé à papa, ou l'inverse.
J'adore qu'on taille les gosses comme ça. Ouais. Je pense que eux, c'est
quelle bande de petits cons, alors.
Bah, je crois surtout qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots.
Oui, non, sûrement pas.
Ouais, c'est vrai. Anna, vous êtes conseillère conjugale, non, souvent?
Non, je ne suis pas conseillère conjugale, mais de fait, je fais office de conseillère conjugale.
Parce que
parfois.
Souvent, vous êtes la première interlocutrice.
Bah, c'est-à-dire qu'ils nous mettent, c'est surtout qu'ils nous placent en tant qu'arbitre un peu, des fois, de leur relation. Et puis souvent, effectivement...
concrètement
c'est... Ah oui, c'est-à-dire qu'ils veulent. Donc on est là, non. Des disputes, des enjeux de couple, bien sûr. Et puis surtout, ils font appel à nous parce qu'on est un peu un interlocuteur là, quoi. Et à qui on ose tout dire. Donc avant, on est l'étape avant d'envoyer... à droite.
Allez hop, bon, alors vous allez voir Sophie, ouais, là, c'est bon, j'ai fait ma dose.
Est-ce que... Loïs vous demande, qu'est-ce qui peut expliquer que la première fois, ça n'a pas marché, mais la seconde, oui?
Dans le meilleur des cas, se remettre ensemble, c'est inventer une autre histoire. Dans le meilleur des cas. Si on est là, si on fait un refemeleux, une copie-collée de ce qui a été auparavant, si on s'est pas remis en question, tout ce dont on a parlé... Il y a peu de chances que ça marche mieux. Il n'y a pas de raison même. Mais si justement on revient ensemble parce qu'on a un peu vécu, parce qu'on a reconsidéré ce qui s'est passé, parce qu'on s'est questionné aussi sur soi, qui on était à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, ça peut être effectivement une réussite après cette, en tout cas ce qui a semblé être un échec d'abord, d'y revenir en peut-être plus mature, plus conscient, moins peut-être plus humble tout simplement.
Voilà. Se mettre moins la pression et mettre moins la pression à l'autre.
Oui. Et puis on est souvent très bravache dans des histoires d'amour. On a l'impression que nous, on a mieux compris. Nous, on va pas être comme tous les autres là, qui ont du mal, qui vont se séparer. Nous, on va y arriver. Ce qui est un peu idiot. On va faire comme tout le monde, au mieux, avec ce qu'on est, avec notre histoire, avec nos casseroles, avec nos névroses aussi. Donc c'est, je crois, ces couples-là, ils retournent, oui, plus modestes, plus désirants, peut-être aussi plus sûrs de ce qu'ils veulent. Ils s'aiment, ils ont envie d'essayer, et moins sûrs de la réussite de leur, cette revie ensemble.
Oui, Yasmine, soyez plus modeste. Arrêtez que mon amour, tout ça.
Anne-Claire vous dit mariée depuis 10 ans et parent de 3 enfants. Nous évoquons une pause, mais pas une séparation. Comment l'expliquer aux enfants? Doit-on continuer à vivre sous le même toit?
Alors ça, c'est des questions à se poser l'un et l'autre. Ça n'a rien à voir avec les enfants, ça. S'ils trouvent tolérable la vie ensemble, enfin en tout cas s'ils préfèrent vivre ensemble avec peut-être un peu plus de distance, mais il me semble que c'est là pour le coup particulièrement un problème de couple.
Mais vous dites que ça se sent, que les enfants sentent.
Oui,
tout.
Ça se sent. Mais dans ce temps-là, en tout cas, il n'y a pas de décision prise, il n'y a pas de séparation à acter. Donc cet éloignement, cette peut-être prise de distance, ils se la gèrent ensemble. Et évidemment que les enfants ne sont pas dupes. Mais je crois que là, particulièrement, tant qu'il n'y a pas de décisions qui vont remettre en question l'organisation de la famille dans son ensemble, et même les questions de est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on vit séparément, c'est eux qui doivent se poser la question. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce qu'ils préfèrent comme ça? Est-ce que ça arrange tout le monde? Est-ce que c'est une espèce de solution un peu hypocrite? Je crois que ce qui coince là, c'est qu'effectivement, s'ils se séparent concrètement, là, il va falloir le dire. Oui. Donc la décision, elle est à prendre à ce niveau-là. On reste ensemble et on prend un peu de distance et on gère ça entre nous. Et s'ils nous questionnent les enfants, eh bien on leur répond. Ou on décide de se séparer dans un premier temps. Et là, pour le coup, il va falloir qu'on l'assume vis-à-vis des enfants.
Mais du coup, pour Benjamin, parce qu'il voudrait savoir, la pause, c'est quelque chose, ça fonctionne ou pas? Vous n'osiez pas demander.
Sous le mot pause, il y a des tas de choses différentes. Quelquefois, très souvent, il y a une espèce de rupture qui ne dit pas son nom. Puis quelquefois, oui, on a vraiment besoin d'un peu de recul, notamment après la naissance des enfants. Vous en parlez souvent, le tsunami que c'est, des choses qui sont passées, des problèmes au travail, quelque chose, peut-être une infidélité qu'on a vécue ensemble et qui a du mal à passer. Peut-être, oui, que quelquefois, ce qu'on appelle pause, c'est une prise de distance, un peu de champ vis-à-vis de l'autre pour peut-être se regarder d'un peu plus loin et se retrouver un peu mieux.
Oui, on met un petit peu ses sentiments en perspective, c'est pas mal quand même. Hein.
Oui, ça peut être bien.
Et alors, quand il y a eu de la violence? Quand il y a eu de la violence, qu'un homme va être violent avec sa femme, et revenir après une pause, après je ne sais pas comment le dire, là c'est d'autres questions qui entrent en jeu.
Oui, alors c'est souvent...
On dit souvent quand il y a eu violence une fois, il y aura violence plusieurs fois.
C'est souvent, hélas, ce qui se vit dans ces schémas-là, voilà. C'est que c'est une fois, c'est une, je ne referai plus jamais, et on recommence.
Excuse-moi, etc.
Voilà,
et puis ça reprend.
Qui est plus une relation en fait de dépendance, d'aliénation de l'un vis-à-vis de l'autre, enfin du bourreau qui a aliéné sa victime d'ailleurs. Donc là, je dirais d'un point de vue comme ça théorique, non, il y a eu violence. D'un point de vue théorique, je dirais non, on n'y retourne pas, évidemment. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après, si c'est vraiment accompagné d'un travail thérapeutique, mais un vrai travail...
Ça existe, ça, quand même.
Oui, ça existe,
bien sûr. Des violences qui ne reprennent pas.
Oui, exactement. Ouais, heureusement, ne disons pas quand c'est une fois, quand voilà, c'est terminé, ce sera toujours, et stigmatiser l'autre. Non, mais vraiment un vrai suivi. Et sans doute que ce suivi-là, à un moment donné, on va peut-être le faire ensemble aussi. Et je conseillerais dans ce cas-là le conjoint, la conjointe, d'accompagner à un moment donné dans une démarche pour lui aussi être assuré sur le fait que voilà, ça ne peut pas se reproduire.
Bien sûr.
Ça aussi, Anna, vous devez voir.
Oui,
ça m'est arrivé, des conjoints violents qui ont réussi à se soigner, mais comme vous le dites très bien, avec vraiment un travail thérapeutique intense et sur la durée, et sérieux, quoi.
Mais ça existe. Pardon. Ambre vous dit, je me remets en couple avec le père de mes enfants, mes parents m'en dissuadent. Comment gérer les réactions de l'entourage alors que c'est
excusez-moi,
un
excusez-moi, non, comme j'éternue, Benjamin me regarde avec son regard numéro 23, où il y a marqué Omicron.
Tu me lances Omicron Delta.
C'est pas ça, vous inquiétez pas, c'est allergique.
Ah bon.
C'est une allergie à quoi ?
J'ai fait un antigénique qui était négatif. Je ne sais pas. J'ai 4 possibilités et j'adore Sophie et Anna. Donc, voilà.
Bon, bah, Benjamin. Voilà. Donc, non, Ambre disait, je me remets en couple avec le père de mes enfants, mais mes parents m'en dissuadent.
Ah, oui.
C'est vrai que l'entourage... Parfois, ça peut être compliqué à gérer.
Oui, mais je crois, enfin, je suis même certaine que les histoires de couple, les histoires d'amour, ou d'amour qu'on croit-elle, hein, ça aussi, ça réclame une discussion, mais bon, ça, c'est un autre sujet, demandent beaucoup, beaucoup d'intimité. ça se règle d'abord et surtout entre nous. Ouais. Et je dirais, même si l'entourage a raison, ça arrive, quelquefois l'entourage vous dit « oulala, pas bonne idée », mais il n'empêche que si c'est ce qu'on a envie de faire, et si on a besoin d'en passer par là, d'en repasser par là, pour peut-être, à un moment donné, se reséparer, et peut-être se séparer définitivement, l'entourage ne sert pas à grand-chose, et peut-être encore moins les parents.
Merci beaucoup à Sophie Cadalen, merci à Laura, et merci à Agathe Le Caron d'avoir si bien mené cette émission. Comme à chaque fois, voilà, toujours flatter un petit peu, la patronne. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour me suggérer des thèmes si vous le souhaitez. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, enfin tout ce que vous souhaitez. Allez, portez-vous bien. À demain, j'espère. Ciao.